Décryptualité, semaine 47. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
5 jolis articles. Hein.
Alors, la Tribune, l'open source en a tout caché pour l'Europe dans la course au leadership numérique.
Alors non, ne pas donner la liste des auteurs.
C'est vrai qu'ils sont hyper nombreux, mais c'est positif qu'ils soient nombreux.
Oui, donc en fait, c'est pas mal de responsables de diverses associations, de ce que je vois. Quand même, c'était le premier, Stéphane Fermiger, qui représente le CNLL. Et donc, c'est tout un édito, une opinion, qui a été publiée sur le site de la Tribune, et qui parle justement de la filière européenne du logiciel libre. C'est plutôt intéressant, et effectivement, en ce moment, on sent que ça pousse un peu. Là, il y a pas mal d'entreprises libristes qui veulent faire entendre leur voix, et qui veulent dire aux autorités, les gars, on existe, arrêtez d'investir que sur les boîte américaine, faites-nous grossir. Voilà. Donc je pense que ça va un peu dans ce sens-là.
Ça parle de business, mais aussi d'autonomie, de souveraineté, ce genre de choses. Donc c'est l'économie, mais pas que.
Article suivant, Numérama. Et si l'on ouvrait de force le code source des logiciels qui ne sont plus mis à jour, par Julien Lausson.
Alors c'est un vieux sujet qui peut être rapproché plus globalement des œuvres dites orphelines. Si on considère que les auteurs sont les parents d'une œuvre, eh bien il y a des logiciels qui, au même titre que des chansons ou des textes, eh bien on ne sait plus qui sont les auteurs, ou on a perdu le lien avec les auteurs, on voit bien que les choses n'évoluent plus.
Les auteurs ou les éditeurs.
Oui, c'est exactement ça. Et donc un logiciel qui n'évolue plus alors que pourtant il y a une communauté derrière, on pourrait rapprocher ça un petit peu de ce côté... perdu, et donc pourquoi ne pas autoriser légalement à ce que quelqu'un s'en occupe à la place et ait le droit, tout simplement, de passer l'œuvre dans le domaine public, par exemple.
Mais si on n'a plus contact ni avec l'auteur ni avec l'éditeur, tu fais comment pour obtenir le code source ?
Alors, c'est une des problématiques du sujet. Alors, il y a plein de manières de l'envisager à l'origine, notamment, ça pourrait être intéressant, quand on est le client d'un logiciel privateur, d'insister, de demander, d'obliger à ce que l'éditeur mette le code source d'une forme de coffre numérique qui serait ouvert par un notaire, par exemple, ou quelqu'un d'équivalent, dans certaines conditions. Par exemple, l'entreprise d'origine est morte, c'est une des conditions qui peut permettre, j'imagine dans ce cas-là, d'ouvrir le code source et de le faire évoluer par d'autres moyens.
Le siècle digital, l'open source, le moteur d'un avenir meilleur pour tous, par Bassène Assé.
Vraisemblablement, de ce qu'on a vu, c'est à la fois un élu local du côté de Nantes, mais c'est aussi le vice-président de GitHub, GitHub Europe, Afrique et Moyen-Orient. Et donc c'est plutôt intéressant parce qu'il parle d'innovation en général, son côté élu et chef d'entreprise, pourquoi pas, moi je suis preneur, surtout que le discours qu'il met en avant est plutôt prometteur, ça promet beaucoup d'innovation, moi j'aime bien, donc il va parler autant d'open data, de partage des données pour se battre contre le coronavirus, mais de plein d'autres choses, c'est plutôt sympa, donc je recommande volontiers comme article.
The Conversation, quand l'open data et l'open source deviennent des leviers pour accélérer la transition écologique, par Martin Régnier.
Donc là aussi c'est pas mal, c'est appréciable, parce qu'effectivement on sait qu'on a des gros problèmes planétaires écologiques de plusieurs natures, donc le logiciel libre est un des facteurs qui nous permettra de faire évoluer tout ça dans le bon sens.
Notamment en permettant de faire tourner du matériel moins puissant ou très ancien, et donc de changer moins souvent de machine.
Tu veux dire qu'on va lutter contre l'obsolescence ?
Oui.
Next Generation, un État allemand va faire passer 25 000 PC sous LibreOffice, Linux devrait suivre, par Félix Catafesta.
Alors c'est le Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, et effectivement, ils ont affiché des ambitions considérables, ils veulent passer toutes leurs administrations locales sous autre chose que de logiciels privateurs, donc Windows et Office, essentiellement, les choses qui sont les plus coûteuses et qui vous bloquent avec un fournisseur de manière assez définitive. Ah, en tout cas, c'est très compliqué d'en sortir. Donc là, ils vont sortir par phase, vraisemblablement. Et on croise les doigts parce qu'il y a eu d'autres cas en Allemagne, avec Munich notamment, d'autres cas de transition qui s'étaient pas toujours passés bien parce que ça bougeait au gré des majorités politiques locales.
Ah si, la transition s'était bien passée. C'est juste qu'après, ils avaient fait demi-tour, quoi.
Et re-demi-tour plus tard.
Ils n'avaient même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de leur transition parce que c'est effectivement très compliqué de migrer depuis tous ces systèmes où il y a à la fois des compétences et des infrastructures en place et que changer c'est très long.
On parle de quoi ce soir ?
On va s'inspirer de deux articles de la revue de presse. Donc l'appel de toutes les associations européennes en disant que l'open source est un atout caché pour l'Europe. Et également la tribune de Bassène Assé qui dit que l'open source est un moteur pour un meilleur avenir pour tous. On aurait préféré qu'il parle de libre, mais voilà. Et donc, il y a cette idée qu'on a un petit peu, parce que dans le monde de l'informatique, et notamment dans ce qui est connu par le grand public, il y a un certain nombre de héros et de choses comme ça qui sont mises en avant comme étant des grands succès.
Steve Jobs, Bill Gates.
Tu sors.
Voilà, non mais on peut pas nier que Steve Jobs notamment a fait l'objet d'un quasi-culte où on disait que c'était une sorte de génie absolu, incontournable, etc.
Il a amené l'iPhone, monsieur, l'iPhone et l'iPod, voyons.
Ouais, enfin, les cultes de la personnalité, moi ça me fait juste penser à Staline. Hein.
Oh, tout de suite. T'es dur.
Oui, oui, et puis en plus de ça, l'objet de ces trucs, aussi bien que soient pensés ces produits, je pense que ça reste quand même un bon produit, mais il y a quand même des trucs absurdes dedans, mais c'est quand même d'enfermer les utilisateurs. Et c'est pas juste nous qui le disons, pendant des procès qu'il y a eu entre Apple et Samsung, il y a des mails qui ont été rendus publics de Jobs envers tous les directeurs d'Apple, et c'est écrit noir sur blanc dans les mails que la stratégie consiste à lier tous les produits ensemble pour enfermer les utilisateurs. Donc ce n'est pas de la paranoïa de notre part, c'est une stratégie. Ça, plus plein d'autres choses, notamment quand l'iPhone est arrivé, il y a eu énormément de censure, tout le côté très bien pensant des Américains puritains, etc., dont Jobs était un grand défenseur, s'est imposé aux gens. Donc moi, j'ai un peu de mal à le considérer comme un héros.
Ah, heureusement, on en a plein d'autres en ce moment. Je veux dire, c'est qui va dans l'espace et qui va permettre de sauver l'humanité en conquérant Mars, là? On en a deux, quand même, sur le tremplin.
Ah non, moi, un héros, s'il a pas de cape et de slip moulant, ça m'intéresse pas, quoi.
Alors, Jeff Bezos, il a une grosse fusée. Ah, ouais, Elon Musk aussi, mais elle n'a pas le même côté phallique.
C'est vrai que la fusée de Bezos a le bout renflé au sommet, et ça change tout. Mais, hormis le côté complètement con de dire qu'on va aller sauver l'humanité en allant sur Mars, ça n'a aucun sens, d'autres l'ont expliqué bien mieux que moi, on a ce modèle-là de gens qui sont considérés comme des héros, la presse les met en avant, ils ont plein de fans, hein, mais au final, ce sont des gens qui ont poursuivi leur intérêt personnel. Un mec comme Bezos, par exemple, est pour moi une plaie, que ce soit à la fois du côté humain, il y a des drames dans ses entrepôts. Bon, il y a un chiffre, par exemple, moi, qui m'a impressionné, qui est qu'aux États-Unis, dans les entrepôts d'Amazon, le taux d'accident du travail est de 80% supérieur dans les entrepôts Amazon que la moyenne nationale américaine, ce qui est absolument considérable. Et il y a plein de trucs, on va pas rentrer dans le détail, mais ce type est dangereux. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont leur vie ruinée à cause de lui. Dans le domaine économique aussi, Amazon va surveiller les vendeurs tiers pour voir ce qui marche et ensuite faire des copies qui vont vendre et mettre en avant. En tout cas, ils sont très fortement accusés là-dessus, ils ont des affaires en cours.
On peut rappeler que Microsoft avait longtemps une politique de embrace and extinguish, où en gros, ils reprenaient des idées ou même des produits de leurs concurrents, ils les intégraient et ils les redistribuaient gratuitement en cassant le marché, et les concurrents, ils mettaient la clé sous la porte au bout d'un moment.
Heureusement, c'est fini parce qu'ils sont mis au libre.
Ils se sont largement mis au libre, et on peut imaginer qu'ils ont changé un peu leur modèle. Hein. Maintenant, ils ont
pas. Ou alors, ils essayent de faire la même chose avec le libre. Oui.
Alors, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais effectivement, ça reste envisageable, oui, c'est vrai.
Mais donc, tous ces grands hommes qu'on est censé admirer, finalement, ils ont de petites ambitions. Parce que, certes, ils peuvent être l'homme le plus riche du monde. Que fait Bezos avec ses milliards? Bon, il se construit une fusée pour aller dans l'espace, et tu te dis que tu peux faire peut-être des choses plus utiles pour l'humanité?
Alors, il fait des cartons. Beaucoup de cartons avec un smiley dessus et il les envoie partout sur la planète.
C'est ça.
Tu pourrais dire qu'il a sauvé l'humanité pendant le coronavirus parce qu'il a permis... Ah mince, j'ai une libraire qui est en train de tomber d'apoplexie. Mais il a permis de nourrir ou en tout cas d'envoyer plein de gadgets dans le monde entier. C'est important les gadgets, on ne se rend pas compte.
On va pas répondre.
Non, on répond même pas. Okay. L'indifférence, c'est la meilleure attaque.
Oui, c'est des modèles qu'on retrouve indépendamment de ces mecs surpuissants que tout le monde admire. Notamment avec le modèle, oui, enfin, que plein de gens, ou en tout cas qu'on essaye de nous vendre comme des modèles.
Que les médias nous obligent à admirer.
Oui, mais tu as tout le mouvement des startups avec tous ces gens qui montent des boîtes et qui se disent mon objectif, c'est de devenir millionnaire en me faisant racheter par une de ces grosses boîtes, et où on poursuit ce modèle de réussite personnelle, de devenir riche.
Tu peux même dire que tu contribues à une forme de pyramide parce que toutes ces petites boîtes qui sont souvent, ou en tout cas parfois, innovantes, elles sont rachetées parce que justement leurs idées un peu novatrices ont besoin de rajeunir le mastodonte, et tous les mastodontes qui tournent, ils n'arrivent plus eux-mêmes à innover. Microsoft particulièrement, ils n'arrivent pas à se remettre en cause, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux de remettre en cause toute la structure. De bouffer des petits, de les laisser grossir ou de les manger un petit peu plus tard, ça permet de faire un Instagram par exemple.
Ouais, ils les rachètent, ils les étouffent et puis ils vont chercher la nouveauté. Et cercle vicieux.
Ah oui, oui, mais il y a de ça. Donc en gros, eux-mêmes n'ont plus vraiment de moyens d'innover par eux-mêmes. Et donc les petits patrons des petites boîtes, leur ambition effectivement, c'est de devenir des licornes. Les licornes, c'est les petites boîtes qui arrivent à faire un milliard de revenus. Et effectivement, il y en a beaucoup qui veulent juste se faire revendre. Hein. C'est des mariés. On rend jolie la mariée et ensuite on la vend à une grosse boîte, américaine souvent, qui va en faire quoi? On ne sait pas trop, récupérer les clients, parce que c'est ça qui se passe souvent.
C'est nul comme ambition, en fait.
Oui, mais ça permet, alors c'est ça qui est amusant, ça permet de remplir des contrats, on va dire, de prestige. Tu vois, tu as réussi dans la vie parce que tu as vendu très cher ton entreprise.
On arrive à faire courir des gens derrière, hein, notamment tous les gens qui vont bosser dans les startups à qui on fait valoir que si on travaille différemment...
On est disruptif, hein.
C'est ça, et au final...
Mais pour une qui se fait racheter et dont les anciens propriétaires vont être riches, il y en a combien qui
alors,
vivotent ?
Alors, disent que c'est 1 sur 10. En gros,
voilà, mais en fait, c'est un petit peu comme dans le domaine de la musique, par exemple, hein, où on a des systèmes de rétribution qui sont extrêmement inéquitables et avec des gens qui veulent gagner au loto. Éventuellement, le talent en plus ou le fait d'être poussé, etc. Mais il y a cette même vision de dire je veux être au top et je veux être le gagnant d'un système où il va y avoir essentiellement des perdants. Mais mon ambition, c'est d'être le meilleur, hein, ou en tout cas voilà, celui qui est sur le dessus. Et voilà, d'un point de vue moral, c'est quand même petit bras, même si le résultat est impressionnant. Il faut avoir un petit caractère, quoi.
Alors moi, je soupçonne quand même qu'il y a certaines de ces personnes qui... Alors, par vanité ou arrogance, veulent aussi laisser une trace. Dans quelle mesure les plus gros milliardaires du monde ne veulent pas laisser comme trace dans l'histoire, voilà, j'ai été le numéro 1. Le numéro 1, en argent accumulé, oui, ça n'a pas beaucoup de sens, oui. Mais finalement, tu te démarques, et peut-être que tu resteras dans l'histoire comme, je sais pas, Bill Gates, il est resté des années et des années comme le numéro 1 des hommes les plus riches de l'humanité.
Donc face à ça, évidemment, si on en parle, c'est qu'on a un contre-modèle que nous on aime bien, qui est celui du logiciel libre. Et moi, je pense notamment à Blender, qui est pour moi un projet libre exemplaire, et Ton Rosendahl, qui est le mec qui, en gros, a fait avancer Blender, qui a animé le projet. Blender, au début, il y a une vingtaine d'années, c'était un logiciel propriétaire qui avait été passé d'entreprise en entreprise, qui avait fait faillite. Ton Rosendahl a lancé une souscription, on ne parlait même pas de financement participatif à l'époque, pour racheter les droits et pour le placer en libre. Et dans des interviews, il expliquait que oui, il aurait pu devenir riche, parce que le mec, c'est un manager, il sait diriger des structures, mais qu'au final, il a trouvé bien plus de satisfaction à développer un logiciel libre de 3D, d'avoir une communauté vivante qui fait de l'art libre aussi, puisque c'est pas juste le logiciel, que cette réussite, pour lui, a bien plus de sens que s'il avait beaucoup d'argent.
On pourrait comparer avec les créateurs de Wikipédia, hein, qui sont rentrés dans l'histoire à leur manière. Wikipédia, c'est un phénomène qui laisse sa trace là aussi, mais qui n'a pas rendu les gens qui en sont les créateurs des milliardaires.
Oui, mais quand on voit le nombre d'utilisateurs, c'est quand même vachement impressionnant, non ?
Et ils font quelque chose qu'on peut facilement décrire comme bénéfique à l'humanité.
Et je suis sûr que dans 50 ans, Bill Gates en saura plus qui c'est, alors que Wikipédia sera toujours là, en train d'être augmenté chaque jour.
Et tout le monde peut y participer. Bon, moi j'ai contribué il y a fort longtemps, un peu après le début.
Dis pas ça, ça fait vieux tout de suite.
Non mais je suis vieux. Et on ressent un enthousiasme incroyable à contribuer à un projet qui nous dépasse collectivement et où c'est pas notre petit ego, notre petite reconnaissance. Même si quand on est un contributeur régulier, efficace, on finit par avoir de la reconnaissance parce que les gens voient bien ce que les autres font. Et si c'est de qualité, ben on a une reconnaissance, mais qui est une reconnaissance profonde et pas juste une question de frime de savoir qui a la plus grosse fusée. Ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde. Et on n'est pas à savoir qui va être en haut du panier à se tirer la bourre par vanité, mais bien de travailler tous ensemble et de construire quelque chose qui rend nos vies meilleures.
Alors moi, ce que j'espère, et je croise les doigts, c'est qu'on va tendre plus vers une société de l'intelligence des foules. Et moi, j'ai l'impression que le logiciel libre construit sur le fait d'avoir des groupes de gens. Alors, on dit foule, mais c'est un peu péjoratif. En fait, c'est des groupes de gens qui sont éduqués, qui ont une connaissance dans un domaine. Et on sait qu'il y a des manières de construire sur ces groupes de gens-là. L'intelligence des foules, je crois qu'il y avait tout un bouquin sur le sujet, où on arrivait vraiment à faire ressortir des phénomènes émergents, on va dire, qui seront très intelligents et très constructeurs. Alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, on voulait des héros. Je veux dire, un Bill Gates, d'une certaine manière, c'est une sorte de héros, mais c'est un héros à tort. Hein. C'est-à-dire que c'est un héros du point de vue des médias, du point de vue de ce qu'on veut en construire quelque chose. C'est une image. Mais ces héros-là, ils ont permis de conduire plein de gens et de les manipuler, sans aucun doute, alors que du logiciel libre et d'autres communautés sont des communautés qui viennent du bas pour aller vers le haut, à mon avis, et qui permettent d'éviter ce côté culte du héros, quoi.
C'est toujours une question de communication. C'est plus facile d'interroger une personne, un héros, que plein de gens dans une communauté. Et c'est un raccourci que font beaucoup de médias et je trouve ça fort dommage.
Oui, c'est aussi une question de concentration de capital. Le monde...
Tu ramènes tout à l'argent. Hein.
De fait, je pense que toutes ces boîtes et toutes ces choses-là prennent de l'ampleur parce qu'ils brassent de l'argent et que c'est ça qui fait tourner une bonne partie du monde et qu'on ne parle pas trop du reste.
À mon avis, ils ont aussi une force marketing qui doit être considérable, planétaire.
Très bien. Donc moi, je dirais plus de libre, plus d'auto-organisation, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.